Alors, bonsoir, bonsoir à tous. On y va. Ça, c'est pas... Ouais, c'est ton blouson, ça. Ouais. Alors, bonsoir. Pour la première interro surprise. J'espère que vous avez préparé vos questions. Parce que nous, on a préparé les nôtres aussi. Hein. Alors, bienvenue à tous aux Utopiales. Bienvenue donc à cette première. Parce que c'est une première. Hein. Ça fait partie des innovations cette année. Donc... J'ai Vincent Calbeau avec moi, architecte super talentueux, maître du futur et qui est aujourd'hui à la tête des plus beaux projets, sans doute des projets les plus fabuleux, en tout cas qui suscitent une réflexion sur l'imaginaire, qui excite notre imaginaire urbain. Pour cette première interro surprise, alors je vous explique, le principe est simple. Je vous vois pas bien, je vais me rapprocher. Je vais vous voir un peu mieux. Ouais, vous êtes sur les boudins et tout. Ça va, vous êtes bien installé? Ouais, c'est bon. Pas trop chaud. Bon, vous, ça va, vous? Ah, ça va pas. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose à madame? Voilà. Alors, donc c'est une interro surprise. L'idée, c'est de ne pas vous infliger, évidemment, le discours habituel, tout préparé, bien construit, petit 1, petit 2, petit 3. Ça, c'est très universitaire. On va simplement discuter ensemble et voir si on arrive à répondre à qu'est-ce que c'est que la ville du futur. Et donc, quels sont vos repères et vos connaissances sur les villes du futur et inversement, ce qu'on peut apporter. Donc, comme c'est Vincent qui est avec moi, on va juste commencer par vous montrer 2-3 images pour exciter un peu votre imaginaire. Est-ce que Maxime, tu veux bien montrer quelques images pour partir sur les premières représentations qu'on a aujourd'hui, de la ville du futur. Vas-y Maxime, tu peux avancer encore un peu. Voilà les projets de Vincent. Vincent, tu veux dire quelques mots peut-être sur ce projet-là?
Oui, donc en fait, il fonctionne? Oui. Non, il ne fonctionne pas. Si, il fonctionne. Les premières images que vous voyez défiler ici, c'est une étude qui s'appelle Paris Smart City 2050, qu'on a développée avec Anne Hidalgo, maire de Paris, pendant 6 mois, avec un groupe d'une vingtaine d'ingénieurs pour prouver qu'aujourd'hui, dans nos villes européennes, qui sont marquées par leur patrimoine historique, il était possible d'inventer la ville du futur à partir des technologies existantes en 2015. Et donc, on a eu l'occasion de travailler avec ces ingénieurs pour prouver que, à l'aube de la COP21, pour répondre à les crises climatiques, on pouvait inventer une ville résiliente, c'est-à-dire une ville qui limite son empreinte carbone et qui produit entièrement toutes les richesses dont elle a besoin, que ce soit son énergie électrique, calorifique, son alimentation biologique, tout en implémentant la qualité de vie des habitants. Et donc, tous ces projets ont été calculés sur le plan structurel et sur le plan énergétique pour prouver que le delta entre, par exemple, l'énergie consommée et l'énergie produite était de 200 à 300% supérieur à ce que le bâtiment avait besoin. Et donc, en fait, le thème général de cette étude, c'est la solidarité énergétique. C'est de dire qu'on pouvait mettre en place via une smart grid, c'est-à-dire un Facebook de l'énergie, un dispositif qui permettait à chaque bâtiment d'échanger en temps réel tout ce qu'il produisait, et ainsi de pouvoir augmenter finalement la qualité de vie des habitants en venant répondre à la troisième révolution industrielle qui vient fusionner la nature dans la ville plutôt que de construire la ville sur la nature. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment de l'utopie concrète. C'est vraiment de l'utopie et non pas de la dystopie. C'est de dire, oui, on est dans un carrefour de crise mondiale, mais du coup, on peut rebondir sur des solutions hyper positives qu'on peut mettre en place, construire dès aujourd'hui.
Ok, alors ça, c'est notre introduction grâce à Vincent. Donc lui, c'est le maître du futur présent, du futur simple, du futur qui va arriver, de la ville du futur qui est déjà en train d'être réalisée, qui est déjà en train d'être mise en place. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une interro comme ça, vraiment surprise, à chaud, sur toutes les villes du futur. Les villes du futur dont on a rêvé avant, les villes du futur dont on n'ose même pas encore vraiment rêver aujourd'hui, même dans les rêves les plus fous de la science-fiction, on n'imagine même pas. Et puis de voir un peu quelles sont vos connaissances sur le futur, sur ces villes du futur. Alors, je vais poser la première question, puis après c'est à vous. Je pose juste une question. Paris en 2050, c'est Vincent Calbeau. Paris en 2440, c'est de qui? Qui a une idée de Paris en 2440? Il y a un auteur, qui est un auteur d'utopie du XVIIIe siècle, qui a écrit l'an 2440. Et c'est un Paris du futur, comme celui de Vincent. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Personne du tout? Non? Pas d'idée? Alors c'est un Français, donc pas un Belge, c'est un Français. qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier. Donc, vous pouvez noter si ça vous intéresse. C'est un texte que vous pouvez trouver soit en librairie, soit en bibliothèque, soit gratuitement sur Gallica, évidemment. Il date de 1771 hein, et Louis-Sébastien Mercier est un Français, 1771, qui a écrit l'an 2440. Et qu'est-ce qu'il raconte dans l'an 2440 ? Eh bien, un voyage imaginaire dans un Paris du futur, un Paris du 25e siècle. Donc un Paris qui est très différent de ton Paris en 2050, mais qui a deux points communs quand même, qui est intéressant comme point de départ. D'abord, c'est un Paris de la science, c'est une cité des sciences. Et c'est un peu le côté rationnel du XVIIIe siècle, de la philosophie du XVIIIe siècle. Le roi, c'est toujours une monarchie, parce que ça, sur le côté politique, ils n'avaient pas trop imaginé encore. C'est toujours une monarchie, mais le roi développe la science, protège les chercheurs. Et puis, eh bien, tu seras étonné, c'est une ville verte. C'est une ville éco-responsable, donc 1771 hein, quand même, hein, donc c'est notre ancêtre, entre guillemets. Et il fait une ville où il insiste beaucoup sur la verdure, les jardins. Donc c'est une utopie verte. Où on trouve, il y a plein de passages dans l'an 2440, où on trouve expliqué qu'il y a des jardins privatifs, des jardins sur le toit des bâtiments, que les bâtiments sont espacés pour laisser la place à de grands jardins. Bref, il y a du vert et de la science. Et c'est d'une incroyable modernité, et ça a été écrit en 1771. Donc voilà une première référence que je voulais vous offrir pour commencer cet interro. Alors, qui pose la première question ? Allez, c'est à vous, on y va. C'est parti.
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez intégré dans votre bilan énergétique les moyens de construction de votre ville, de votre projet.
Oui, donc maintenant, en fait, on est obligé de calculer les moyens mis en œuvre et les énergies consommées pour construire un bâtiment. Donc moi j'ai un peu la trentaine, donc j'ai été éduqué avec le Grenelle de l'environnement et toutes les normes environnementales qui nous imposent par exemple d'étudier le cycle carbone du bâtiment, c'est-à-dire tout le CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, non pas simplement durant la période d'exploitation du bâtiment pour le chauffer ou le rafraîchir, mais tout le CO2 rejeté pour produire les poutres en acier, les dalles en béton, les dalles en acier. Donc tout le CO2 qui était rejeté dans l'atmosphère et les quantités d'eau également pour produire ces matériaux de base. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours calculé le prix d'un bâtiment sur son coût de construction à la livraison. Et aujourd'hui, on calcule le coût du bâtiment sur sa période de construction, sa période d'exploitation et sa période de recyclabilité. Et donc finalement, on étudie la vie d'un bâtiment sur 400 ans. Donc c'est ce qu'on fait actuellement sur nos chantiers en cours en Asie ou en Afrique du Nord. Et donc c'est comme ça que finalement, en étudiant tout le cycle, on rentre dans cette fameuse économie circulaire pour faire en sorte que tout est transformable à l'infini.
Oui, oui, j'avais une question. Oui, je suis là, ici, pardon.
Oui. On ne vous voit pas du tout en fait.
Oui, bon, je vais peut-être me lever, comme ça on me verra. J'ai une question qui est très simple, mais peut-être compliquée aussi. C'est simplement, pourquoi la ville ? Quand j'étais petit, j'ai lu Asimov, et lui, son utopie, sa ville moderne, c'est une absence de ville, tout le monde à la campagne, tout le monde relié au réseau, et pas de gratte-ciel ébouriffant. Et c'est un peu une réflexion qui m'est venue quand tout à l'heure, il y a quelqu'un à une table ronde parlait, où il disait, pourquoi une utopie, c'est tout le temps une ville et pas une campagne idéaliste ?
Donc nous, ici, dans le projet qui a été présenté avant, dans Paris 2050, on a étudié justement la densification, c'est-à-dire passer de 21 000 habitants par kilomètre carré à 28 000 habitants par kilomètre carré dans le cœur de Paris intramuros. Et effectivement, maintenant, en Asie notamment, on étudie comment on peut ralentir l'exode rural massif, c'est-à-dire le fait que tous les Chinois veulent aller habiter dans le cœur des villes, qui deviennent de plus en plus grosses, jusqu'à 50 millions d'habitants pour Hong Kong ou Shanghai, parce que tout le monde veut être proche des services. Or, aujourd'hui, on sait effectivement que les nouveaux moyens de communication, Internet, les achats en ligne, le télétravail, nous permettent justement de dématérialiser nos modes de transport et la façon de communiquer entre nous. Et donc, peut-être qu'effectivement, le futur de la ville, il sera à la campagne, et où chacun pourra vivre immergé dans la nature, tout en étant hyper connecté au reste du monde. Donc, c'est vraiment la schizophrénie de notre monde actuel. de dire on veut ce retour à la nature, mais on veut en même temps être hyper connecté avec des appareils qui sont de plus en plus énergivores. Et donc comment produire moins d'énergie mais mieux, c'est un peu là qu'est le centre de la question aujourd'hui. Et comment aussi préserver les territoires, étant donné que moi je dis souvent, je suis né en 77, il y avait 4,5 milliards d'habitants sur Terre, quand j'aurai 70 ans, il y en aura 9 milliards, le double. Donc simplement sur le temps de ma petite vie, la population mondiale du globe aura doublé. Donc effectivement, peut-être qu'au lieu que tout le monde parte sur la planète Mars ou autre, on partira simplement sur nos campagnes ou on partira aussi peut-être vivre sur l'eau ou sous l'eau.
Juste pour compléter par rapport à Asimov, donc effectivement, vous pensez donc à un roman particulier où justement il n'y a pas de ville et on est dans ce cycle de Trentor où les gens vivent très éloignés les uns des autres et où justement effectivement ils ont fait le choix d'être dans l'absence de ville. C'est vrai qu'on trouve énormément de villes dans l'histoire de la science-fiction. C'est vrai qu'il y a énormément de villes aussi chez Asimov, puisque je vous rappelle que dans le même cycle de Isaac Asimov, vous avez aussi Trentor, qui est la capitale de l'Empire galactique, qui est ce qu'il appelle d'ailleurs Cave of Steel, hein, les cavernes d'acier, qui est une ville qui s'enfonce en profondeur et qui est vraiment une ville à la fois verticale et tentaculaire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette prévalence de la ville, cette omniprésence de la ville, mais ce n'est pas toujours, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas toujours par opposition à la nature. Et comme je le disais un peu plus tôt dans la journée, donc pour ceux qui l'ont déjà entendu, je m'en excuse, même si on remonte aux racines des rêves des cités idéales des utopistes, bien lorsqu'on tombe sur Thomas More, qui est vraiment le père de l'utopie en 1516, eh bien, il n'y a pas véritablement de coupure entre la ville et la nature. Au contraire, la cité est un prolongement de la nature. La cité imite les lois de la nature. Et les cités vertes, voilà, je parlais de l'an 2440 de Mercier, mais dès Thomas More, l'utopie est verte. L'utopie est au milieu de la nature. Elle travaille en harmonie avec la nature. Et c'est nous qui avons petit à petit simplifié les choses, peut-être pour des raisons culturelles, et qu'on a voulu vraiment séparer d'un côté la ville froide, bétonnée, tentaculaire, surpeuplée, c'est surtout les années 70, hein, pendant les années 70, c'est surtout ce qu'on a fait, et puis de l'autre côté la nature préservée, bienfaisante, etc. Et une autre référence sur l'absence de ville, c'est évidemment La machine à explorer le temps de Herbert George Wells en 1895, une grande œuvre repère de l'histoire de la science-fiction. Vous avez cette fameuse histoire des Élois et des Morlocks. Les Morlocks représentent une sorte de monde urbain souterrain dominé par la machine, mais les Élois qui vivent en surface, eux, vivent dans la nature, dans les prés, dans les champs, en absence de structure urbaine. Mais là encore, c'est un faux-semblant, puisqu'il n'y a pas d'Élois sans Morlocks, il n'y a pas de Morlocks sans Élois, donc les deux sont liés aussi. Voilà. On y va, on continue. On continue. Bonsoir.
Bonsoir. On sait que certaines utopies étaient basées sur des faits sociaux, socio-culturels et économiques, au niveau des bases. Et je me demandais par rapport au projet qui avait été mis en place, si vous aviez eu une démarche de recherche avec le citoyen lambda, en fait, pour tout ce qui est représentation de la ville, pratique. Enfin, moi, c'est des choses que je connais un petit peu. Donc, justement, je me posais la question sur est-ce que c'est pris en compte, puisqu'on sait que c'est quand même quelque chose d'important dans la structure de la vie de la ville en elle-même. Et comment ça va, justement, comment vous pensez que ça puisse être accepté, en fait, par le citoyen qui va vivre dans ce nouveau type de ville, en fait. Parce qu'au niveau déjà structural, c'est extrêmement différent de ce qu'on connaît.
Donc, c'est vrai que cette étude, justement, elle s'inscrit dans une sensibilisation de dire que, pour rejoindre un peu la question précédente, on a tendance aujourd'hui, en tant qu'urbanisme, de lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale, de dire que tout le territoire va devenir une ville éparpillée, hyper énergivore. Il faut savoir que plus une ville est dense, moins elle est énergivore. Un pavillon 4 façades à la campagne avec son jardin individuel consomme 10 fois plus qu'un appartement en centre-ville. C'est un exemple. Point de vue bilan carbone, avec tous les moyens de déplacement individuel ou public qu'il engendre. Ensuite, une étude comme ça, j'ai parlé des ingénieurs avec lesquels on a travaillé, des ingénieurs structures, des ingénieurs en génie bioclimatique. Effectivement, ensuite, on travaille aussi avec des sociologues. Et la mairie de Paris, en tout cas, essaye toujours de mettre en place des processus de démocratie participative, où finalement, on ne va plus demander l'avis des citoyens une fois qu'on a dessiné un projet et qu'on veut faire passer le permis de construire, mais on va demander l'avis du citoyen à la base, via des études préliminaires, pour savoir vers quel type de mode de vie il a envie d'évoluer. Est-ce qu'il a envie de vivre dans une ville pédestre? Est-ce qu'il a envie d'accéder au logement dans le quartier là où il travaille? Et finalement, de retrouver l'inverse de tout ce qu'on a fait depuis les années 60, où on a monofonctionnalisé les villes, donc des quartiers d'affaires, des quartiers de logement, des quartiers de loisirs, des centres-villes muséifiés. Nous, on milite pour une ville jungle où toutes les fonctions sont mélangées entre elles. Plus les fonctions sont mélangées entre elles, plus les gens se mélangent entre eux, plus les classes sociales se mélangent entre elles, et plus une ville, finalement, fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, après, selon moi, cette démocratie participative, qui est super intéressante à la genèse des projets, doit être recadrée par un positionnement politique fort, c'est-à-dire un maire d'une ville, un smart maire, un maire intelligent, qui se fixe un cap. Sinon, rien ne se fait. Parce que le problème, c'est qu'on arrive jamais, enfin, on arrive plutôt toujours à des solutions du compromis dans le compromis dans le compromis, si à un certain moment, il n'y a pas un axe politique posé. Et donc, ce qui est intéressant dans ma génération, c'est que les politiques aujourd'hui actuelles, ils essaient de travailler avec les architectes et les urbanistes en amont, en se disant, voilà, je te demande d'imaginer une ville durable, une ville pour demain. Et donc, fais-moi un plan durable à 10 ans, 30 ans, 40 ans en avenir pour voir ce que, dès aujourd'hui, je dois mettre en place pour que dans 35 ans, ça soit véritablement effectif. Et donc, pour ça, on a forcément besoin de travailler de façon transdisciplinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je fais souvent des conférences dans des universités. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui sont en train d'apparaître. Parce que pour construire la ville intelligente de demain, et les projets d'architecture qui sont présentés ici derrière, on a besoin de nouveaux métiers qui soient en fait des fusions de métiers existants. C'est-à-dire, par exemple, un sociologue qui soit architecte, un architecte qui soit ingénieur agronome, un ingénieur agronome qui soit urbaniste. Et donc d'avoir un pôle de compétences vraiment en dehors des tiroirs pour véritablement innover et ne pas répéter les modèles existants des années 60 qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Avec, je vais prendre un exemple, le projet du Grand Paris. Donc, le projet du Grand Paris, c'est étendre Paris à l'horizontale, faire exploser les moyens de transport privés au public et mettre l'argent dans les infrastructures et pas dans les superstructures, dans les services à la personne. Et donc, finalement, on répète toujours ces mêmes modèles en Europe, ces modèles qui ont été complètement réinventés, notamment dans les pays émergents.
Moi, j'ai une question. Donc, on parle beaucoup d'utopie dans la ville. Je voulais savoir si, en faisant ces utopies, vous êtes influencé par les dystopies, notamment, je pense, à la ville, sa représentation au cinéma, à Blade Runner, Soleil Vert, jusqu'à... On peut même parler de Wall-E, où il n'y a même plus de ville, où ça se passe dans l'espace. Et donc, est-ce que quand on essaie de créer ces utopies, on a ces erreurs anticipées en tête? Et est-ce qu'on les a en tête pour s'en détacher?
Oui, donc c'est vrai que j'espère qu'un jour... Enfin, j'espère que jamais, plutôt... Ce festival ne s'appellera les dystopiales, parce que c'est vrai que dans toujours, on dit c'était mieux avant, on est dans un milieu hyper conservateur, c'est ce qu'il disait très bien dans les tables rondes à l'espace Chaillol cet après-midi. Et finalement, à tous les jeunes qui sont ici, on leur dit ouais, c'est no way, c'est trop tard, le dérèglement climatique, on est de toute façon à plus 4 degrés, on va essayer de limiter à 2 degrés, mais dès qu'on parle d'écologie, un pouvoir politique, c'est pris comme quelque chose de punitif. On va tomber dans une fiscalité négative. Donc, on va taxer les gens, vos revenus, pour finalement pallier comme on peut au projet. Et donc, moi, je milite positivement pour la valorisation de l'utopie urbaine qu'on a rejetée depuis maintenant 30 ou 40 ans. Et donc, finalement, il faut fixer des caps. Il faut se fixer un idéal. Et aujourd'hui, être idéaliste, c'est le plus gros des défauts en France. Parce qu'on dit, les idéalistes sont des doux rêveurs, mais celui qui ne rêve pas, celui qui n'a pas d'idéologie, n'arrivera jamais à arriver à son but. Et donc, si on ne se fixe plus de but aujourd'hui, ça va devenir dur d'améliorer la ville. Et donc, moi, ce que j'essaie de démontrer, en tout cas, c'est que toutes les connaissances existent, toutes les technologies sont existantes ou émergentes, et qu'on peut passer à l'action directement dès aujourd'hui.
Juste pour compléter sur les dystopies, c'est vrai que la science-fiction est très riche en dystopies. Vous avez cité Soleil Vert, notamment, justement par rapport à l'écologie et par rapport au surpeuplement, etc. Mais vous avez aussi des utopies véritables en science-fiction. Je crois que tout à l'heure, on citait Kim Stanley Robinson, la trilogie martienne. La trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, c'est un texte, une trilogie qui vous dit même avec 4 degrés de plus, en l'occurrence là c'est beaucoup moins, c'est beaucoup de degrés de moins sur Mars, même avec une atmosphère non pas polluée mais raréfiée, on peut arriver à créer des sociétés viables si on s'en donne les moyens et si on a la capacité de les penser puis de les concrétiser. Et là, ce qu'il vient de vous dire, ça fait parfaitement écho à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a 4 degrés de plus qu'il faut baisser les bras et attendre la mort. C'est au contraire une manière de dire, on peut justement, avec l'imaginaire et avec ce qu'il vient de dire, retrouver une dynamique de l'utopie, construire des lendemains meilleurs. Et ce n'est pas 4 degrés qui vont nous arrêter, on peut continuer, puisqu'on peut penser le faire maintenant sur d'autres environnements planétaires aussi. Donc voilà.
Bonjour. Là. Je me posais une question. Forcément, il y a de l'utopie, mais il y a aussi la réalité, une forme de réalité où on nous dit, on a peur de ce qu'il y a dehors, notamment, voilà. Et c'est pour ça que j'en reviens à la zone du dehors. Et cette petite réalité bien tranquille où on nous laisse dedans, et même si globalement cette ville a l'air plutôt sympathique, voilà, il y a des parcs, c'est joyeux, mais en même temps on va pas encore plus loin, et j'ai l'impression que dans cette zone intérieure on se satisfait. Est-ce que même avec ça, là, avec les villes aujourd'hui, on serait pas juste à se satisfaire? Juste à se satisfaire et pas aller encore plus loin.
Alors bon, parce que par rapport au texte que vous citez, hein, donc Alain Damasio, évidemment la zone du dehors. Effectivement, je vois bien le sens de la question. Est-ce que finalement on se donne un peu d'espoir pour éviter de changer les choses plus en profondeur? Et la question que vous posez, c'est ne faudrait-il pas tout abattre d'un coup, d'une certaine manière, plutôt que d'essayer d'adapter les choses? C'est ça, sur ça que tu vas pouvoir répondre. Alors effectivement, on pourrait penser l'utopie anarchiste, hein, totale. Alors là, je vous donnerai un pardon.
Libertaire.
Oui, libertaire. Alors là, je vous donnerai un très bon exemple qui est peu connu mais qui est disponible sur Gallica gratuitement. Donc je vous engage à aller le chercher. C'est un utopiste du 19e siècle cette fois. Comme quoi, vous voyez, quand on regarde les utopies anciennes, on trouve beaucoup de réponses. Il s'appelle Joseph Déjac. Joseph Déjac, c'est l'inventeur du mot libertaire. C'est lui qui avait créé le journal Le Libertaire sous le Second Empire pour lutter justement contre la fausse libéralisation impulsée par Louis-Napoléon III. Et comme ça le mettait en rage, Joseph Déjac, eh bien, il a lancé le libertaire et il a créé une utopie qui était une utopie anarchiste et libertaire, dont sans doute Alain Damasio a connaissance, bien évidemment, qui s'appelait l'humanisphère. L'humanisphère, qu'est-ce que c'était? C'était l'utopie de la globalité, quoi, de la globalité de l'humanité. Abattons les institutions, abattons les systèmes monétaires, abattons tout, toute forme de bourgeoisie, tout ce que vous voulez, et reconstruisons à partir de zéro quelque chose qui n'est fondé que sur un élément, il disait Joseph Déjac, que sur une dictature, celle des idées, celle de l'intellectuel, de la pensée, de la liberté de la pensée. Et bien sûr, c'est resté une utopie. Lui, il a eu pas mal de problèmes avec la justice, il a été arrêté plusieurs fois, mais son utopie, l'humanisphère, fait ce que vous proposez, c'est-à-dire il refusait qu'on se contente d'adaptation. Et il appelait à un changement brutal et complet du monde, un changement anarchiste. Donc finalement, c'est sur ça que peut-être tu peux aussi rebondir. Est-ce que ces changements-là, parce qu'ils sont crédibles, ne sont pas, d'une certaine manière, un moyen de ne pas penser à des changements plus importants qu'on pourrait aussi imaginer?
Donc c'est un peu ce que j'ai présenté en fait ce matin. Ce matin, j'ai présenté plutôt des projets qui étaient vraiment à long terme, c'est-à-dire le fait de se dire... notre planète, elle est constituée à 70% d'océans. Pourquoi on vivrait pas sur ces 70% d'océans et qu'on quitterait la Terre? Pourquoi est-ce qu'on vivrait pas dans les fonds marins et qu'on ne redeviendrait pas, par exemple, amphibien? Donc, essayer de reformater complètement la logique initiale, de se dire on pourrait vivre dans le ciel sans utiliser une seule goutte de pétrole. Ce serait possible de vivre dans des villages flottants, à l'image de ce qu'a dessiné Miyazaki, mais avec les technologies émergentes aujourd'hui. Donc, ça, c'est possible. Nous, après, moi, en tant qu'architecte, mon envie, c'est de construire. Et de construire des bâtiments les plus innovants possibles. Et donc, j'ai deux choix qui correspondent un peu à deux logiques politiques différentes. En France, en Europe, on a des politiques démocratiques. Et donc, on ne part pas d'une page blanche. De plus, on a notre patrimoine historique qui fait qu'on doit composer avec. Et donc, l'organisation de la ville, l'organisation de la société humaine se fait de façon très organique. Si, à l'inverse, je vais travailler dans un État communiste, dans une ville communiste, tout sera beaucoup plus simple, les décisions vont être prises beaucoup plus vite, personne ne donnera son avis, et à la limite, on pourra imaginer un nouveau modèle beaucoup plus vite dans ce genre de pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, en 2015, on peut travailler en temps réel sur ces différentes phases politiques avec différentes structures de décision. Et souvent, finalement, c'est quand même les systèmes les plus contraignants, c'est-à-dire les pages noires plutôt que les pages blanches, qui donnent les innovations les plus subtiles, on va dire.
Pour revenir en plus sur la dimension politique, là aussi on a beaucoup d'exemples d'utopie programme, d'utopie pas totalitaire, pas nécessairement, mais d'utopie totale en tout cas. Mais souvent dans la littérature, dans l'imaginaire, et c'est bien ce que pointe du doigt Alain Damasio dans La Zone du Dehors, ces utopies totales, certes réussissent plus vite, mais au prix de la liberté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les auteurs de science-fiction les plus récents partent sur des alternatives où on essaye de totaliser le champ de l'utopie mais sans en passer par la perte de la liberté. Vous avez par exemple Ian Banks avec Le Cycle de la Culture qui est un bel exemple d'utopie anarchiste, libertaire, fondée sur des intelligences artificielles qui vont gérer un certain nombre de choses tout en laissant la liberté la plus essentielle, celle individuelle de tout un chacun, voilà. Donc vous avez, mais c'est vrai que dans l'histoire de la science-fiction, hein, effectivement, on trouve exactement cette problématique-là. Et après, je pense qu'on a un problème avec la démocratie aussi, c'est-à-dire que nous sommes attachés à la démocratie, et la démocratie est le meilleur des régimes à l'exclusion de tous les autres, mais c'est aussi un régime profondément imparfait. Et nous devons être capables de penser les imperfections dans l'utopie et dans la science-fiction. Parce que penser nos imperfections, c'est pouvoir améliorer nos démocraties. Et souvent, lorsqu'on commence à faire une critique sur un système démocratique, on passe toujours pour un élément totalitaire ou un élément destructeur. Mais critiquer un système qui existe, les utopistes l'ont toujours fait. La pensée politique est née comme ça. Socrate critiquait la démocratie athénienne. Ça ne voulait pas dire qu'il voulait l'abattre, mais qu'il voulait contribuer à son amélioration. Donc parfois, être hors du système n'est pas forcément vouloir le détruire, mais le pousser à se remettre en cause. Et c'est exactement la zone du dehors de Damasio, je pense.
Alors moi, pour continuer, sur la même lancée de... Ici, s'il vous plaît, ici.
Pour demain, je demanderai un autre éclairage parce qu'on vous voit pas, on voit pas vos visages, donc c'est un peu, ça fait un peu totalitaire. On a l'impression d'être, bon, enfin, allez-y.
Pour continuer sur la lancée de l'histoire de la France ou autre, on a des bâtiments qui sont classés historiques et quand on regarde les schémas, enfin les dessins qui sont à l'écran, on remarque, enfin, tout est changé. La Paris de 2050 ne ressemble plus du tout à Paris d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en 2050, on pourra accepter de changer complètement l'apparence des bâtiments historiques de Paris qui font que Paris est la capitale de la France?
Donc nous, notre grande bataille, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes historiques, c'est lutter contre ce qu'on appelle la muséification. La muséification, c'est de se dire, Paris, en fait, le Paris qu'on connaît aujourd'hui, il est tout jeune. Il a été construit il y a 200 ans par le baron Haussmann. Il a abattu, à l'époque, il y a 200 ans seulement, 75% de l'île de la Cité qui a été reconstruite et qu'aujourd'hui, n'importe quel touriste trouve magnifique. Et donc, on se dit, est-ce que dans les 1000 prochaines années, on va vivre dans une ville qui a été construite il y a à peine 200 ans? Moi, en tant que jeune, même pas en tant qu'architecte, en tant que citoyen, je dis non. Moi, j'ai envie de marquer la ville de mon époque. J'ai envie qu'elle soit innervée des nouvelles technologies, des nouvelles façons de communiquer, de travailler, de vivre, d'habiter. Et je ne veux pas vivre dans une ville qui soit un musée, qui soit un Euro Disney à ciel ouvert. Je n'ai pas envie de vivre chez Mickey. Et je n'ai pas envie le fait de vivre chez Mickey entraîne ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire que finalement, les bâtiments sont de plus en plus chers et sont habités par des classes sociales de plus en plus riches. Donc nous, on se bat contre ça. Une petite réflexion sur les images qui sont passées, c'est qu'on n'a détruit aucun bâtiment existant. Le problème aujourd'hui à Paris, c'est que tous les bâtiments haussmanniens, aussi beaux soient-ils, sont de véritables passoires thermiques. On ne peut pas les isoler par l'extérieur, sinon ce ne seraient plus des bâtiments en pierre de taille. Et donc, il faut bien inventer un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, nous, c'est la solidarité énergétique. C'est de dire, je vais construire un bâtiment qui est au-dessus du bâtiment haussmannien qui vient s'enraciner sur lui. Et ce bâtiment produit 300% de l'énergie dont il a besoin. 100% pour lui et 200% pour les bâtiments haussmanniens qui sont existants à ses pieds. Et ainsi, on arrive véritablement à apporter une réponse pour construire une ville post-carbone, une ville qui assure la transition énergétique. À savoir qu'en Chine, je fais toujours un petit parallèle, suivant la philosophie de Confucius, rien ne nous appartient. Et donc, le mot patrimoine n'existe pas dans tout le continent asiatique. On ne garde rien, ça n'a aucune valeur symbolique ou financière aux yeux d'un Chinois actuellement. Et donc, quand un système est obsolète, on le change, on le démolit, on rase tout, on fait page blanche et on recommence à zéro avec un nouveau modèle qui, lui aussi, un jour sera obsolète. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire de toucher à l'intouchable. Et par exemple, il y a l'UNESCO actuellement, avec les maires de droite de Paris, qui veulent classer au patrimoine de l'UNESCO tous les toits de Paris, en disant « Ah, c'est tellement joli les toits en zinc de Paris ». Alors, moi, je suis bien d'accord, c'est super joli. Quand on est à Montmartre, sur la tour Eiffel, c'est hyper homogène. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'un toit va garder dans les 1000 prochaines années son unique fonction de nous protéger de la pluie alors qu'il pourrait être producteur d'énergie? Donc moi forcément je lutte pour que on ne classe pas les toits de Paris au patrimoine, parce que dès que tout est classé, tout est figé. Et donc nous ce qu'on veut, ce qu'on essaie de militer, c'est que nous on est des êtres en mouvement, on se suit de génération en génération, on se passe le relais. Et donc forcément, la ville doit suivre ce passage de relais de génération en génération pour continuer toujours à augmenter la qualité de vie des habitants.
Oui, monsieur, je pense qu'il y a des choses dans votre propos qui sont peu entendables. La première, c'est que vous semblez faire table rase de notre patrimoine historique et architectural. Si on pousse un peu plus loin votre raisonnement, il faudrait désinguer toutes les œuvres qui nous arrivent des temps pharaoniques ou des constructions de l'Empire romain, au prétexte que vous êtes jeune et que vous voulez voir l'avenir par le bout de votre lorgnette, finalement. Ça, et c'est pas entendable. Je pense.
Pour tempérer un peu.
La deuxième chose, je réagis aussi sur le. Vous citez souvent la Chine en exemple. Je pense pas que la Chine soit un merveilleux exemple de préservation de l'environnement aujourd'hui. Les Chinois, lorsqu'ils mènent des études, les approfondissent à fond et une fois qu'effectivement, là je vous l'accorde, ils ont décidé, ils avancent. Contrairement aux pays européens où on va tourner, on va sans cesse remettre en question les décisions et même en cours de projet. Je pense que le fait de vous... Enfin, je veux dire, vous profitez effectivement de l'émergence de certains pays, peut-être pour faire passer plus vos idées, mais... c'est pas une raison pour tout casser dans notre vieille Europe, auquel beaucoup de citoyens sont attachés.
Donc un peu pour tempérer. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que dans les 10 images que j'ai montrées de Paris 2050, aucun bâtiment n'a été touché. On a démoli aucun bâtiment. Alors qu'on on pourrait le faire, mais on ne le fait pas pour des raisons patrimoniales, pour des raisons amoureuses de notre patrimoine. Et donc justement... J'essaie de dire le contraire, j'essaie de dire que ce qu'on fait en Chine, on ne fait pas du copier-coller avec l'Europe. Et que justement, l'Europe a cette spécificité de ne pas construire des villes nouvelles comme Songdo en Corée du Sud, qui est construite sur des rizières, donc ex nihilo, ou comme Masdar à Abu Dhabi, qui est une ville construite au milieu du désert. Nous, on ne travaille pas avec une page blanche, justement. On travaille avec des bâtiments existants. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on peut... inventer la solution post-carbone, on peut proposer des solutions positives pour la COP21 en disant que nous, les pays européens qui avons généré le dérèglement climatique, c'est nous qui avons généré le dérèglement climatique qui est impacté aux pays les plus pauvres, eh bien c'est à nous à être exemplaires et à proposer des nouvelles solutions pour justement être force de proposition et ne pas rester dans des constats anxiogènes.
Alors merci, c'est bien qu'il y ait des débats, c'est très très bien. Alors monsieur, chacun doit pouvoir avoir le temps de parole, mais c'est très bien, c'est très très bien qu'il y ait des débats. Je vous rappelle que c'est une interro surprise, donc on pose des questions, c'est pas un agora au sens uniquement politique, mais on a bien entendu les deux. Juste une précision, voilà, il faut rester dans la logique des questions, tout simplement, Donc voilà, merci de la respecter et merci de tes éclaircissements et aussi de votre intervention parfaitement pertinente, tout à fait. Moi, j'ajouterais juste un truc. Encore une fois, je reviens à l'histoire hein, puisque c'est mon filtre, le filtre par lequel j'arrive à cette rencontre. L'idée de la préservation de l'ancien est aussi présente dans l'utopie de Mercier. Puisque lorsqu'il arrive au 25e siècle, effectivement, la géographie urbaine de Paris, il faudra que tu t'y pencheras, a changé, si ça n'est pas déjà fait, a changé, mais les bâtiments anciens ont été préservés et ont été surmontés par des jardins aussi. Donc c'est assez rigolo. Entre Paris 2050 et Paris en 2440, il y a quand même pas mal de points de ressemblance. Alors, question suivante. Vous avez le micro ? Allez-y.
Une pensée patrimoniale, mais finalement ce paradoxe, ça va emmener un paradoxe assez formidable, et on va le constater lorsqu'on est dans le quartier du Louvre ou dans d'autres endroits, où la vie qui était décrite par Balzac de rue de Rivoli a complètement disparu, elle n'existe plus, c'est-à-dire qu'en fin de compte les touristes viennent chercher quelque chose qui n'existe plus. De surcroît, les habitants de Paris ont disparu de ces quartiers pour devenir autre chose, une disneyfication, comme vous le dites si bien. C'est vraiment, on le constate, et il y a une sorte de contamination du centre de Paris vers l'ouest parisien. Donc dans ce cas-là, en tant que Parisien, moi je ne suis plus du tout attaché à ma ville, et cette partie-là pourrait disparaître, que je ne pleurerais pas, parce qu'elle est incapable de produire de la vie sociale et de l'histoire propre. Lorsque je vois, par exemple, par contre, il y a des choses très très intéressantes, par exemple dans le 8e arrondissement, c'est en termes sociologiques, c'est-à-dire que le 8e arrondissement, en août, le soir, devient une ville orientale. C'est-à-dire que tous les Saoudiens et tout ça viennent, et toute la population qui constituait cette ville et qui a fabriqué la magie de sa ville a disparu au profit d'une autre population qui, d'ailleurs, personnellement, pour avoir travaillé avec eux, que je trouve pas très sympathique pour un certain nombre de valeurs, mais néanmoins qui constitue une nouvelle sociologie de la ville et qui n'a plus rien à voir et qui transforme la ville avec une férocité. J'ai vu comment le prince Al-Walid a changé le George V pour en faire une sorte de truc monstrueux, pour chasser complètement toute la possibilité d'une sorte de vie autonome, et je dirais une vie autonome, une vie endémique qui produit un existant assez solide. Donc dans ce cas-là, Paris est déjà mort d'une certaine façon, et il vaut mieux envisager un grand Paris et espérer que dans les pourtours de Paris se constitue un certain nombre de choses, ou que les points de fixation comme la Villette, le rond-point de la Villette disparaissent ou soient transformés pour qu'il y ait quelque chose qui se crée. Et là, c'est un vrai problème d'urbanisme. Non, Paris est réellement mort et il n'y a rien à espérer. On peut effectivement raser des choses, ne pas faire des monstruosités comme celles qui avaient été prévues à l'époque de Pompidou, c'est-à-dire cacher la Seine, rajouter des autres, on peut inventer autre chose. Mais il y a vraiment, c'est probablement que Paris est déjà une dystopie.
Et donc, ce que j'ai aimé dans votre réaction, c'est le fait de dire que finalement, pour aimer une ville, il faut se l'approprier socialement. Moi, par exemple, quand j'avais 23 ans, je suis arrivé dans le 7e arrondissement, donc c'est l'arrondissement qui est au pied de la Tour Eiffel. J'avais une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Et on m'avait dit, ouais, tu verras, c'est les immeubles haussmanniens, c'est l'un des plus beaux quartiers de Paris. Je venais de Bruxelles à l'époque et j'ai vraiment été déçu par tout l'imaginaire que j'avais projeté dans Paris, où je me suis retrouvé dans un quartier gentrifié avec une seule classe sociale, plus ou moins du même âge. Et donc, j'ai pas pu m'approprier cette vie de quartier. Après, je suis parti vivre dans le 19e arrondissement, entre le parc de la Villette, le parc de Butte-Chaumont et le canal de l'Ourcq, qui est l'arrondissement qui représente le plus de classes sociales différentes, le plus de citoyens d'origine différente, et où il y a le plus de dents creuses, donc de friches, notamment des friches industrielles comme la Petite Ceinture de Paris, qui, à l'image de la High Line à New York, est un tracé ferroviaire qui reliait toutes les gares de marchandises de Paris. Et toutes ces gares de marchandises, elles sont à l'abandon, et ce tracé représente 55 hectares au cœur de Paris intramuros. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec la mairie de Paris, c'est de réouvrir un cordon écologique où les habitants pourront retrouver des jardins ouvriers qu'ils pourront cultiver eux-mêmes en pleine terre le long de ce tracé, le long de ce fil d'Ariane végétal au cœur de la ville. Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'on invite dans un quartier? Parce qu'on peut se l'approprier, on peut faire une action, par exemple une action maraîchère, proposer une ville nourricière. Et en allant, par exemple, travailler dans ses potagers, cultiver la terre, on rencontre ses voisins par l'action, par le jeu. On fait jouer nos enfants ensemble. Et donc, justement, c'est comme ça qu'on construit la ville contemporaine. Après, juste par rapport au Grand Paris, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on a le Paris intramuros et le Grand Paris. Et donc, on parle beaucoup d'infrastructures. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer de cicatriser, finalement, le tout à l'automobile depuis les années 60 et de venir faire en sorte de réurbaniser le boulevard périphérique en transformant en forêt des énergies renouvelables, en une forêt qui viendrait ramifier le bois de Boulogne au bois de Vincennes, notamment, et qui permettrait, finalement, de venir recouturer les quartiers de banlieue avec le Paris historique pour finalement effacer la frontière. Et du coup, ne plus faire des portes de Paris que des entrées de ville, qui sont des lieux de passage d'un point A à un point B, mais qui soient un continuum fonctionnel et urbain, où on pourrait, par exemple, construire des fermes verticales qui viennent rapatrier l'agriculture urbaine et les agriculteurs dans les villes principalement tertiaires.
Juste pour ajouter le commentaire de la science-fiction et de l'utopie, enfin cet éclairage-là un peu en contre-champ historique, il est clair qu'une ville du futur, c'est d'abord une projection culturelle, sociale et culturelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un futur, il n'y a pas une ville du futur. D'ailleurs, le futur n'existe pas en tant que tel, puisque c'est un regard. Et ça, la science-fiction le montre bien. Je pense qu'il y a des nostalgiques de Paris aussi dans les auteurs, par exemple, d'Uchronie ou de steampunk, où on voit souvent des réinvestissements d'un Paris du 19e siècle, beaucoup plus ouvrier, beaucoup plus fondé sur parfois une idolâtrie d'un certain nombre de structures haussmanniennes aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous montre aussi bien à travers cet examen là, de Paris 2050 que finalement, tout ça, c'est très culturel. C'est très, si j'osais presque, je dirais presque identitaire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, une ville, c'est d'abord l'expression de quelque chose qui n'est ni dans les monuments, qui n'est ni dans les avenues, ni dans la structure même, ni dans la densité ou dans le pourcentage même de végétation. Voilà. Et ça, je pense que la science-fiction est un très bon outil pour ça, puisque le nombre de villes de la science-fiction, le nombre de villes imaginaires de la science-fiction ont évolué avec les contextes dans lesquels elles ont émergé. Il y a un poids du contexte extrêmement fort. Il y avait un historien anglais, Arnold Toynbee, qui disait « Le potier est esclave de l'argile », c'est-à-dire que c'est l'argile qu'il a entre les mains qui lui permet de faire son œuvre. Et les auteurs de science-fiction, les auteurs d'utopie, ont toujours fait leur œuvre à partir de l'argile culturelle qu'ils avaient dans leur esprit. Et c'est une bonne manière de vous rappeler à tous que la question, c'est déjà de penser le futur, mais qu'il n'y a aucun futur qui soit ou tout bon ou tout mauvais ou complètement dystopique ou complètement utopique. Voilà. Certains vont chercher, et la science-fiction est aussi un moyen de rappeler ça à chaque génération. La dystopie de Soleil Vert ne s'écrirait plus du tout aujourd'hui, ce serait plus du tout la même dystopie. On est plutôt dans les dystopies de la surveillance, justement, que dans les dystopies de l'écologie. On a beaucoup parlé de Paris, mais il y avait plein d'autres villes du futur dont on pourrait parler. Mais enfin bon, allez-y, vous avez le micro ? Alors, il y avait peut-être une dame avant, je ne sais pas. Nous sommes en... Gérez-vous entre vous, c'est de l'autogestion.
Bonjour. Je ne peux pas m'empêcher de penser depuis le début à la ville qui n'existait pas de Enki Bilal. Et je me dis, est-ce que dans cette volonté d'être autonome, on ne perdrait pas le lien avec l'environnement extérieur à la ville? Et est-ce que ça ne serait pas justement un danger d'enfermement de ne pas voir ça à l'échelle d'un pays plutôt que d'une ville? Voilà. Ou d'une planète.
Oui, on essaye de le voir à l'échelle des pays et des continents. Quand vous dites autonome, vous parlez socialement ou Oui. Donc, Donc oui, effectivement, par rapport à l'histoire des villes dômes, il y a une fabuleuse vue comme ça de New York de Fuller qui voulait mettre Manhattan sous un dôme et effectivement enfermer les habitants dans un microcosme idéal. Nous, effectivement, on a quitté un peu cette idéologie. On travaille beaucoup sur l'autonomie énergétique qu'on distingue fortement de l'autonomie sociale. Donc l'autonomie énergétique, c'est quoi ? C'est faire en sorte que la ville se comporte comme un écosystème mature, c'est-à-dire à l'image de la forêt amazonienne, produise sa propre énergie, principalement par photosynthèse, et recycle tous ses déchets organiques en ressources naturelles recyclées et recyclables en boucle vertueuse. C'est-à-dire finalement une ville qui pourra abolir deux mots de son dictionnaire urbain, le mot pollution et le mot déchet. Après, ce que ça génère, c'est simplement des bâtiments qui sont autonomes. Mais ils ne vivent pas en autarcie, justement, ils s'échangent en temps réel tout ce qu'ils produisent. Et ils créent du coup une société solidaire qui s'échange les biens, les denrées, les énergies dont elle a besoin. C'est ce que je voulais exprimer avec le concept du Facebook énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez échanger vos photos des utopiales avec vos amis, eh bien, demain vous pourrez échanger en temps réel l'énergie que votre appartement produira, ou vous pourrez prendre l'énergie du bâtiment voisin si votre bâtiment n'est pas équipé. On appelle ça la smart grid, c'est-à-dire le fait de construire un système nerveux énergétique dans les villes. Et ensuite, on peut, c'est un peu fractal, hein, on peut l'appliquer à un quartier, on peut l'appliquer à une ville, on peut l'appliquer finalement à un territoire. On appelle ça les TEPOS, les territoires énergie positive. Après, socialement, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le thème de la ville pédestre et en disant qu'on va essayer de bouger moins, bouger mieux. Donc de se dire que forcément, on va essayer d'avoir toujours les services à proximité de là où on habite ou de là où on travaille. De dire que pour aller chercher son pain, quand on habite en pavillon, on n'est pas obligé de prendre la voiture. Soit ça se fait par un système de dématérialisation, il y a de nouveaux moyens d'échanger finalement les marchandises, soit ça se fait par la densité du territoire qui pose effectivement la question de l'autarcie, de dire si j'ai tout dans mon quartier, dans le quartier idéal dont tout le monde rêverait, ben je ne vais plus jamais en sortir. Donc là, c'est là qu'on revient un peu à l'identité et à la question patrimoniale. J'ai vu par exemple, il y a une petite expo à côté des animaux du futur fait par une artiste nantaise dont j'ai oublié le nom.
Sarah Scaniglia.
Et donc, ce qui est intéressant dans l'expo, c'est qu'elle prend des landmarks, c'est-à-dire des points forts visuels du paysage nantais qu'elle met en plein milieu de la mer ou en plein milieu de la montagne ou en plein milieu d'une rizière. Et du coup, même si on voit le dôme de l'usine Lu en plein milieu d'une rizière, on dit tiens, j'ai un référent nantais en tête. Et donc ça, c'est important en tant qu'architecte et d'urbaniste, c'est d'essayer de faire des bâtiments qui portent l'identité du lieu, la culture du lieu, et qu'une tour qui est construite à New York ne soit pas du tout la même qu'une tour qui est construite à Paris. C'est essayer de trouver ce référent culturel en s'inspirant de l'histoire du lieu, en s'inspirant de la culture, en s'inspirant des techniques de construction et de fabrication qui ont été mises en œuvre depuis des siècles et des siècles.
Ok. Après, le retour de l'autarcie, c'est aussi le retour réflexe aux ressources limitées, quoi. Alors, vous revenez sur les modèles de cité-État de l'Antiquité qui vivaient en autarcie. Pourquoi ils vivaient en autarcie ? Pas parce qu'ils avaient décidé de vivre en autarcie. C'est parce qu'ils devaient vivre en autarcie parce que les ressources étaient très limitées. Et ça, on le retrouve souvent, ce modèle de la cité-dôme qui vit en autarcie dans la science-fiction. Mais c'est un modèle qui nous ramène simplement à l'Antiquité. Modèle qui a d'ailleurs été adopté par les utopistes à partir de la Renaissance, puisque la plupart des utopistes proposaient des utopies fermées, des utopies, pas du recyclage, on n'était pas dans le thème du recyclage, mais des utopies capables de finalement, jusqu'aux villes nomades finalement de James Blish, qui sont des villes qui partent dans l'espace et qui sont autonomes par essence, par construction, ontologiquement conçues comme ça. Mais cette idée d'autarcie, elle est très ancienne dans l'histoire de la ville telle que les conçoivent les cultures humaines. C'est la ville autosuffisante parce que limitée, extrêmement limitée en ressources et du coup en population aussi. Donc c'est vrai que ce retour aujourd'hui à l'autarcie, moi j'y vois un petit bémol du coup. C'est très intéressant, le futur peut-être autarcique, mais il ne faudrait pas non plus en faire une espèce de dogme en disant « si vous n'êtes pas en autarcie, alors vous n'êtes pas dans le bon futur ». La limitation des ressources et l'épuisement d'environnement, c'est aujourd'hui incontestable. Enfin, il n'y a plus de discussion scientifique dessus, c'est avéré. Mais ce n'est pas parce que c'est des ressources limitées que le seul futur que l'on a est celui de l'autarcie, du recyclage des ressources limitées. On a quand même une recherche, on a quand même un esprit, on a quand même une possibilité. Il y a des tas de possibilités, on peut trouver de nouvelles sources d'énergie. Il ne faut pas s'enfermer uniquement dans un seul modèle de cité future, même si celui qui correspond le mieux en ce moment à cette problématique-là, c'est bien celui du recyclage et de la production d'énergie. Moi, je suis effaré par ce que tu nous as dit sur le fait qu'un bâtiment peut produire 300% de ce qu'il consomme. Ça, moi, je ne pensais pas que c'était aujourd'hui possible.
Okay, je prends juste un exemple d'un bâtiment qui consomme 300 fois plus d'énergie dont il a besoin. On a imaginé le projet de la gare du Nord à Paris. Et donc la gare du Nord à Paris, on a simplement calculé que si on recouvrait les 32 quais de la gare du Nord et tout son hall de dalles piézoélectriques, on rendait le 10e arrondissement de Paris autonome en énergie. Simplement en transformant les pas des 800 000 visiteurs qui empruntent ces 32 quais quotidiennement en énergie grâce à un prototype de dalle qui est aujourd'hui commercialisé.
Alors juste, vous avez déjà, j'essaie de tout le monde, voilà. Non, juste, est-ce qu'il y a des gens, voilà, parce qu'on arrive déjà à la fin, c'est horrible, c'est beaucoup trop court.
Moi, j'ai un problème, bon, je suis né à Paris, j'ai vécu longtemps en région parisienne. Paris, c'est 1 200 000 habitants, grosso merdo. Il y a 12 millions de franciliens, quid d'eux ? Comment se font les relations si on supprime le périphérique avec la banlieue lointaine, type Creil, de l'autre côté Versailles, etc., etc. Comment est-ce que vont se générer les transports en commun ? Qu'est-ce qu'on fait de Roissy à aéroport, de la zone industrielle de Roissy, qui est énorme ? Qu'est-ce qu'on fait des 4000 de la Courneuve, des Courtilières à Pantin, enfin, etc. Vous avez certainement des solutions, mais comment arriver à faire vivre finalement 12 millions de personnes qui sont agrégées, sans créer des autarcies, justement, quelque part ?
Donc, en fait, c'est vrai que la question des franciliens, elle est fondamentale et elle va se développer, je pense, à partir notamment de l'année prochaine, où il y a sûrement des appels à projets innovants qui vont être lancés, justement, pas pour rendre chaque quartier autour de Paris, chaque quartier autarcique, mais que chaque quartier trouve sa spécificité. Ne soit pas monofonctionnel, donc mélange un maximum de fonctions, un maximum de population, mais trouve simplement son identité, notamment en se reposant sur son histoire, sur les spécificités et les qualités intrinsèques endémiques de chaque site. Et donc le but, justement, dans le Grand Paris, pour moi, c'est de ne pas faire une grande ville, c'est de faire peut-être un ensemble de petites villes, de villages, de grands villages, qui ont chacune leur spécificité et qui, par solidarité, forment une grande ville.
Ok, allez, peut-être une dernière question. On va un peu dépasser, je sais que c'est pas bien, mais on va peut-être faire une toute dernière question, courte. La question qui tue, vraisemblablement. On me fait signe que non. Donc plus de dernières questions. Écoutez, merci d'avoir fait cette expérience, car vous tous,
excusez-moi,
ceux qui avaient posé des questions...
Excusez-moi, j'ai une question.
Eh bien non, on m'a fait signe que c'était pas... Ah, si, alors une, c'est possible. Vous voyez, comme je suis docile, hein, vous avez vu, hein. Oui, alors, où il est le monsieur qui pose la question? Alors,
milieu,
une, très rapidement.
Vous parlez beaucoup d'espace d'étalement urbain horizontal ou vertical vers le ciel, en quelque sorte, pour maximiser l'espace disponible qui se réduit avec la population qui augmente. Mais ne serait-il pas plus logique de chercher à exploiter l'espace souterrain en se développant verticalement et vers le centre de la Terre afin d'utiliser cet espace et de, en quelque sorte, d'exploiter la surface afin de produire des ressources énergétiques ou alimentaires ?
Ouais, donc moi, je n'ai jamais travaillé sur la thématique, mais c'est vrai que l'underground, on dit souvent que c'est le futur de l'urbanisme. Si vous allez sur Google, vous trouverez des projets qui ressemblent à des pyramides inversées, notamment à Mexico, qui justement viennent étager des champs d'agriculture, mais en négatif sous le niveau zéro, en disant notamment que l'inertie thermique des bâtiments serait procurée par la Terre, par la géothermie naturelle, étant donné que ce type de ville n'aurait plus qu'une façade vers le ciel. Donc le problème, c'est que ça crée beaucoup de dépendance au renouvellement de la qualité de l'air, aux frigories, aux calories, et que du coup, ça va être quand même des villes dont les schémas d'études en ingénierie démontrent qu'elles vont être encore plus énergivores qu'une ville sur l'eau ou qu'une ville sur la terre. Mais donc, c'est des pistes de réflexion, notamment dans des territoires qui sont déjà très denses. Par exemple, après la High Line à New York, maintenant, la ville a lancé la construction du premier parc mondial souterrain. Donc, un parc végétalisé souterrain, mais qui va être entièrement éclairé en LED. Donc, ça pose la question de se dire, est-ce qu'il faut rentabiliser des espaces existants qui sont déjà creusés, mais qui, du coup, vont devoir demander encore plus de technologie et non pas des systèmes passifs pour pouvoir survivre. Mais donc, c'est effectivement une piste de réflexion qui est très en vogue actuellement.
Ok, un grand merci à Vincent Calbeau. Merci à vous tous d'avoir fait cette première expérience. Première interro-surprise des Utopiales. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé. Désolé à ceux qui n'ont pas eu le temps de poser des questions. Voilà, merci Vincent, merci beaucoup. Et bonnes Utopiales à tous.